France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Lors de la parution en 2007 de son roman Petit homme chéri, Jean-Pierre Setton était l'invité d'Alain Weinstein dans Du jour au lendemain. Son livre commence par ces lignes. Cette malle, je croyais en connaître le contenu de trucs hétéroclites qui ne m'intéressaient aucunement. Sans doute m'était-elle trop familière, à force de l'avoir vue depuis toujours, dans les différentes maisons où nous avions habité. Généralement rangée dans les combles ou dans une chambre de réserve. Sans la voir en réalité. Je l'ai compris quand je me suis mis à la vider. Et que du fond, j'en ai extrait un paquet enveloppé d'un tissu rêche dans lequel se trouvait un vieil album de cartes postales datant du début du XXe siècle. Les cartes postales retrouvées par Jean-Pierre Setton dans cette malle, c'était une correspondance croisée entre le front et l'arrière durant la guerre de 14-18 que le narrateur du livre attribue à ses grands-parents. Le narrateur ou l'auteur? À cette question, Alain Weinstein n'obtenait pas de Jean-Pierre Setton une réponse tranchée, pas plus qu'on ne peut être convaincu, en écoutant l'entretien qui va suivre, que cette malle et ses cartes postales ont jamais réellement existé. Qu'importe, car, comme on va l'entendre, c'est ailleurs que pour Jean-Pierre Setton se situait le lieu de la vérité de ce roman. Une invitation à lire Petit homme chéri, Jean-Pierre Setton s'entretenant avec Alain Weinstein dans Du jour au lendemain, une émission diffusée la première fois, le 13 juin 2007, sur France Culture.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Jean-Pierre Setton, qui publie Petit homme chéri, 1914-1918, aux éditions L'Acte Même. Cette histoire me donne le vertige, tant elle me paraît affreusement éloignée dans le temps, jusqu'à éprouver le sentiment qu'elle s'enfonce dans les temps historiques. Un peu comme lorsque je pense à des périodes très reculées, le 19e siècle, les années de Chateaubriand, le 5e siècle avant Jésus-Christ, les 50 000 ans des humains, les centaines de milliers d'années d'errance des primates, les 65 millions d'années de la disparition des dinosaures, les milliards d'années de l'univers. Publication plutôt intermittente, Jean-Pierre Setton. D'ailleurs, vous ne donnez pas dans votre du même auteur les dates de vos livres, peut-être pour qu'on ne voit pas qu'il y a quelquefois de grands écarts entre eux. Le premier, c'était Roclaville aux éditions de Minuit, avec une préface de Marguerite Duras. Ensuite, vous avez publié chez POL Rapt d'amour. Puis, la suive à l'imprimerie nationale édition, c'est-à-dire dans la collection que dirigeait à l'époque Michel Nurizzani.
Oui.
Puis, Pathetic Son chez Criterion Éditeur. Je crois qu'il y avait encore Nurizzani.
Tout à fait.
Ouais. Derrière. La fiction d'MD aux éditions du Rocher. MD, c'était comme un prénom de femme, mais il fallait entendre aussi les deux lettres, MD, Marguerite Duras. Et puis, aux éditions compactes, Les Voyageurs modèles. Bon, éditions compactes qui, aujourd'hui, ont laissé la place à cette maison que j'ai citée pour la première fois dans Du jour au lendemain, L'Acte même, L'Acte, L'ACT, et plus loin, même, MEM. Ça fait moderne, hein, comme...
En tout cas, pour répondre à votre interrogation sur le fait que je n'indique pas de date, ce n'est sûrement pas pour cacher qu'il y aurait des trous plus ou moins importants entre ces différents livres, parce qu'il y a une relative régularité. C'est-à-dire, je publie un livre à peu près tous les 4-5 ans. C'est à la fois pas beaucoup, et c'est à la fois, ça colle à un certain parcours de vie.
Mmh. Et je me souviens qu'au début, le coupable... Si on peut parler comme ça, c'était le cinéma. Parce que vous ne faisiez pas qu'écrire des livres, vous faisiez des films aussi, vous intéressiez beaucoup au cinéma, et même de si près que je me souviens qu'au tout début des années 80, je vous avais demandé de parler régulièrement de cinéma dans Nuit Magnétique.
Ça, c'était en effet le tout début des années 80, oui.
Et le cinéma, c'est fini.
Depuis, j'ai écrit... J'ai écrit sur différents supports, d'ailleurs. Il y a ces livres qui paraissent régulièrement, mais il y en a peu, je dois dire, hein, tous les 4-5 ans, voilà. Et puis le support Internet, où je diffuse beaucoup d'écrits sur un site personnel, notamment.
Donc vous êtes bien moderne, comme je le disais tout à l'heure, hein, complètement moderne.
J'ai suivi, je suis dans l'écrit. C'est une des choses extraordinaires qu'on a découvert avec Internet, c'est que il y a énormément d'écrits sur Internet. Dans les années 80, justement, on pensait que l'image prendrait le pas, si j'ose dire, sur l'écrit. Pas du tout. Sur Internet, il y a énormément d'écrits. Donc, je suis plus proche de cet écrit-là que d'un écrit du cinéma, par exemple.
Et là, vous avez éprouvé le besoin de publier ce livre, Petit homme chéri, sous une forme traditionnelle.
Vous voulez dire sur la forme de...
De livre.
Ah oui, je trouve ça très bien. Non, mais les deux ne sont pas du tout incompatibles. Au contraire, ils vont tout à fait de pair. Je crois que Internet peut permettre à des livres d'exister longtemps, par exemple. Et puis, il y a peut-être des écrits qui ne méritent pas d'être publiés en livre. S'ils sont trop éphémères, ou etc. Non, j'aime beaucoup l'impression papier aussi, également.
Vous pensez que le livre permet à un texte d'avoir une longue vie?
Oui, surtout grâce à Internet, par exemple, parce qu'on peut retrouver facilement des livres qui, sinon, auraient été quasiment introuvables, sauf dans quelques librairies à une époque spécialisée dans les livres disparus. Mais
est-ce que le propre d'un livre, c'est pas de disparaître?
Alors, je ne crois pas, non. En tout cas, moi, c'est sûrement pas pour ça que j'écris. C'est au contraire parce que je pense que l'écrit peut, a une importance forte au point de durer. Et même, c'est d'ailleurs pourquoi d'ailleurs, j'écris peut-être des livres qui ne sont pas très très liés à une actualité, finalement. Mmh. Ou en tout cas qui peuvent, me semble-t-il, se passer du moment où ils ont été écrits. Je ne sais pas pendant combien de temps, mais...
Un livre n'est pas un objet perdu.
Ah, c'est-à-dire si on jouait sur les mots, peut-être que oui. Peut-être que oui, mais je préfère revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est, en tout cas pour moi, quelque chose qui est... qui se relie vraiment à un parcours de vie. Et qui peut-être a une fonction d'inventer de la réalité.
D'inventer de la biographie?
Non. Non, de la réalité. Non, la biographie, elle se fond plutôt dans la fiction. Parce que, évidemment, le livre, pour moi, c'est plutôt la fiction, c'est-à-dire le roman. Mais le roman au sens de fiction, c'est-à-dire qui tente de donner un petit peu plus de matière que celle qu'il y avait avant le livre, avant qu'il soit écrit.
Et là, avec ce nouveau livre, vous vous éloignez de ce chemin-là?
Pas tellement, non.
Parce que vous partez de sources biographiques bien réelles.
Alors, il y a une matière, en effet, qui sont des correspondances croisées entre ceux que j'appelle dans le livre « Petit homme chéri » et « Petite femme chérie » parce qu'ils s'appellent comme ça. «
Petit homme chéri » à entendre avec des guillemets, qui ne passent pas très bien à la radio.
C'est-à-dire, c'est mon ami éditeur Henri Poncet qui a pensé que c'était mieux comme ça. Bon, moi, ça m'était un peu égal. En tout cas, c'est comme ça que les auteurs de ces correspondances s'appelaient. Et donc, ça, c'est la matière première de ce livre, en effet. De même, mon ami éditeur, à nouveau, a préféré écrire récit pour qualifier ce livre, ce qui n'a pas beaucoup d'importance pour moi. On aurait pu mettre roman ou rien du tout, d'ailleurs.
Et pour vous, c'est quoi?
Eh bien, c'est un peu les deux, d'ailleurs, parce que, d'abord, les premiers récits de l'histoire sont devenus des romans. Et puis, aujourd'hui, on sait très bien qu'un récit, il est impossible de traduire réellement un des événements de réalité en un récit qui soit totalement authentique. Sauf à ne donner que les documents. Ce qui n'est pas le cas de ce livre, puisque ce livre présente en effet donc des correspondances croisées durant la guerre 14-18.
Retrouvées dans une malle,
voilà. Voilà, ça c'est le début de la fiction d'ailleurs. On ouvre la malle, il y a un gros paquet qui est entouré d'un vieux tissu. On ouvre ce tissu et on découvre des albums de cartes postales qui sont ces lettres échangées donc, en fait, au début entre le grand-père et la grand-mère du narrateur. Et puis la fiction va se dérouler de là.
Parce que vous êtes en train de nous dire que cette malle n'a pas vraiment existé. Vous l'avez inventé pour les besoins du livre.
Je vous avouerai que je n'en sais plus rien. Parce qu'il y a en effet quelque chose de réalité à l'origine de ce livre, qui sont ces cartes postales. Mais après, il y a...
Elles existent, ces cartes postales.
Elles existent d'une certaine façon, oui. Oui.
Parce qu'attention, il y a deux dates en sous-titre. 1914-1918.
Oui, la plupart de ces cartes postales ont été en effet échangées pendant cette période-là.
Qui n'est pas n'importe quelle période.
C'est une période, d'ailleurs, curieusement, qui n'est... En revenant au petit extrait que vous avez lu au tout début, au fond, 14-18, c'est pas si loin que ça, il y a moins d'un siècle. Pourtant, ça paraît extrêmement loin. Surtout si on prend en compte cette guerre épouvantable, indéfendable quelque part aujourd'hui. Et si je dis ça, c'est pour dire qu'il n'y a pas un seul sujet dans ce livre qui serait ces cartes postales-là, mais qu'il y a le point de vue d'aujourd'hui sur ces cartes postales, ces événements et cette période-là.
Là, les cartes sont regroupées par quatre sur chaque page de cet album retrouvé dans cette malle. Donc déjà, il y a un sas qui est une opération manuelle qui consiste à détacher les coins, qui les fixe pour pouvoir simplement en prendre connaissance et les retourner, parce que la correspondance, elle est au dos des cartes postales.
Voilà. Bon, ce n'est pas la peine de compliquer, mais quand même, on peut dire que le narrateur, le premier en tout cas, parce qu'on découvre à la fin qu'il y en a un second.
Vous dites le narrateur?
Oui, je dis le narrateur, oui. Je suis l'auteur du livre qui a fabriqué un narrateur et puis peut-être un second.
Qui a fabriqué une malle, qui a fabriqué des cartes postales.
Oh, les malles, ça...
Il y en a partout dans les greniers des écrivains.
Ouais, ouais. Pas que des écrivains, d'ailleurs. Si tant est que des écrivains et des greniers, d'ailleurs. Mais ce premier narrateur, en tout cas, il n'est pas forcément le seul à avoir feuilleté ses albums, bien entendu. Donc, l'ordre des cartes, etc., a pu changer. En cela, ce n'est pas d'une très grande importance, d'ailleurs. Ce qui me vient à l'instant, c'est que, en écrivant ce livre, en tout cas, je me suis rendu compte que ce monde-là, pas si lointain pourtant, est presque irreprésentable pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire que, bien sûr, on a fait des quantités de films, on a publié d'ailleurs beaucoup de cartes, beaucoup de lettres, enfin surtout du front d'ailleurs, peu de lettres, je crois, croisées comme ça, avec une réponse de l'intérieur. Mais on a fait jouer par des acteurs ces événements. Mais j'ai l'impression que le plus souvent, on ne se rend pas compte que on a fait jouer les événements, plus ou moins, les comportements, les habits, etc. Mais avec la mentalité qui est plutôt celle d'aujourd'hui, si ce sont des films faits aujourd'hui, que celle de l'époque en question. Et c'est ça qui est une des interrogations du narrateur dans ce livre, c'est de percevoir en tout cas que sa propre pensée et sa propre mentalité, si j'ose dire, c'est un mot commun, mais est très éloignée de celle qui habitait les gens dont il est question.
Cet homme-là, c'est un homme qui est tourné vers l'avenir, il le dit, et là, il y a le poids du passé. Il y a l'obligation dans laquelle il se trouve de s'interroger sur ce passé, alors que ce n'est pas du tout son tempérament, habituellement.
Oui, là, vous parlez du narrateur, donc.
Bah, oui,
oui, tout à fait, tout à fait.
Je n'oserais pas parler de l'auteur.
Oui, c'est vrai, oui. C'est vrai, on peut parler de l'auteur, finalement. C'est vrai que...
C'est l'auteur ou c'est le narrateur?
Non, mais là, disons, on va pas faire compliqué, oui. Mais... c'est vrai que ceux qui me connaissent un peu savent que je suis très porté à m'intéresser à ce qui se passe aujourd'hui, et surtout à ce qui se passe aujourd'hui dans l'accord de cet aujourd'hui, c'est-à-dire... il me vient à l'instant ceci... Un des grands clichés de notre société d'aujourd'hui est de dire que notre société, justement, a perdu toutes ses valeurs, ou même qu'elle n'a plus de repères, etc. Et l'une des choses qui m'a animé dans ce livre, c'était de tenter de rendre compte de la lecture, de la découverte de ces cartes, finalement, avec un point de vue d'aujourd'hui. Or, aujourd'hui, nous avons, d'une façon générale, nous avons majoritairement, en tout cas, un point de vue très pacifique, en tout cas en Europe. Oh, il se trouve que, il y a un siècle à peu près, il y avait, de gré ou pas, je ne sais pas, une expression, en tout cas majoritaire, assez guerrière. Ce qui fait qu'on ne peut pas juger les choses du tout de la même façon. À la découverte de ces cartes qui parlent relativement peu de la guerre, d'ailleurs, curieusement. Ou plutôt les informations qui concernent la guerre sont accrochées aux questions, aux informations, aux nouvelles sur la santé, que l'on répète beaucoup. Ou bien aux marques d'affection, il y en a énormément. C'est très touchant d'ailleurs, c'est une des choses qui m'a fait m'intéresser à ces cartes et qui m'a fait écrire ce livre, je crois. Comme si, à la fois, toutes ces marques d'affection, je ne dirais pas occultées, la guerre, mais il y avait nécessité de l'occulter, tellement les choses étaient affreuses. Mmh.
Mais pourquoi éprouvez-vous le besoin, ce soir, là, de nous faire croire que toute cette histoire est de la fiction?
Eh bien, parce que ça en est. Il y a... on pourrait considérer, à part peut-être les cartes postales, si vous voulez, bon. Encore que, bien sûr, j'ai fait un choix, j'ai fait une mise en scène... mais tout le reste du texte, parce que là il y a un autre texte que les cartes postales elles-mêmes. Publier ces correspondances seules aurait des...
C'est faire de l'édition.
Voilà. Donc, j'ai essayé de faire un peu de littérature et...
Oui, mais tout de même, il y a un accent qui ne trompe pas.
Dites-moi.
L'accent d'émotion.
Oui. Il y a de l'émotion, il y a même de la rage parfois. Mais c'est vrai qu'il y a de l'émotion à la fois dans la tentative de recherche, de compréhension de ces, ce qu'il appelle ses ancêtres. Et puis il y a de la révolte face à la misère, à la cruauté, au danger, à la... jusqu'à la révolte, en effet, puisqu'à un moment, le narrateur se dit non, ce ne sont pas mes ancêtres, je ne les connais pas, je ne veux plus les connaître, ce n'est pas eux.
La recherche de la filiation, qui est pour le narrateur plutôt incertaine, tout d'un coup a pris, à la lecture de ces cartes postales, une certaine urgence qui l'étonne lui-même. Comme s'il avait définitivement réglé ce problème avant de le rouvrir comme une blessure.
Oui, peut-être, oui, en effet. Il pensait l'avoir réglé, oui. Enfin, oui, il pensait l'avoir réglé, peut-être, oui. Mais peut-être pas tout à fait. Parce qu'après tout, si on reprend... C'était assez anecdotique de retrouver ces albums de cartes postales. Mmh. Il y en avait d'autres, d'ailleurs. D'autres époques, il y en avait... Je crois même, j'en suis sûr, puisqu'il s'agit de moi en l'occurrence là, puisque c'est le point de départ. Pour ce point de départ, je ne triche pas, je veux dire. Mmh. Je crois même que peut-être je les avais déjà vus, ou on m'en avait déjà parlé, ou quelque chose comme ça.
Mais vous le dites au début.
Alors je vous crois.
C'est pas une surprise. C'est pas une surprise, cette découverte. Mais la surprise, c'est votre propre intérêt pour ce que vous découvrez.
Alors cette surprise, elle s'exprime, je pense, à travers cette image de, qui est aussi à la première page de la découverte un jour, alors qu'il était dans des caves avec sa mère. Le narrateur croit apercevoir une porte grande, sans savoir où elle aurait pu donner et vers quoi. Et puis finalement, après avoir... dégagé un certain nombre de meubles disloqués, il arrive à retourner cette porte qui était en fait un miroir. Et on sait bien que dans l'ordre de l'affiliation ou bien du rapport aux ancêtres, il y a cette image du miroir, quoi. Il n'est pas sûr à la fin que ce miroir soit dans l'état du premier, dont le teint était intact, il est possible qu'à la fin, il ne le soit plus du tout. Que sa propre vie, est, dans cette époque présente, l'empêche d'une certaine façon de se relier à ses ancêtres. Enfin, c'est une question.
Mais du coup, cette histoire d'ancêtres va transformer le livre en une espèce d'enquête, une recherche, une quête.
Oui, c'est ça, oui. Il y a une enquête, une quête. Il y a quelque chose d'archéologique, presque, en effet. C'est ça qui est étonnant, c'est que, alors que ce n'est pas du tout si loin que ça, puisque après tout, on se... Oui, c'est loin, mais je veux dire, on se réfère constamment à des périodes de l'histoire, la Révolution, le 19e siècle...
Mais là, c'est une période qui est authentifiée par l'existence de témoins que vous auriez pu connaître.
Techniquement, impossible.
Mais non, c'est ça le problème. C'est ce que vous répétez tout le temps.
Techniquement, impossible. Oui, mais ouais. Je ne l'avais pas dit encore là, ce soir.
Enfin par oui-dire.
Oui. Relativement peu. Mais il y a aussi cette révolte... du narrateur, ou des, s'il y en a d'autres, à l'égard de cette guerre. Indéfendable, aujourd'hui. Disons par exemple que, non seulement elle a détruit l'Europe, mais elle a induit directement la Seconde Guerre, encore plus terrible d'une autre façon. Et surtout qu'elle a détruit une période, enfin, elle a mis fin à une période qui paraissait extraordinaire, qui est celle du début du XXe siècle, où on garde tous en mémoire cette impression qu'il y a là un début de quelque chose d'extraordinaire, une création formidable en art, en science, en littérature aussi d'ailleurs. Et en même temps, on voit comment on a réduit ces gens, disons 4-5 ans de leur vie, à être des pauvres gens, quoi. Et pire que ça, pour ceux en tout cas qui en sont revenus. Sachant qu'on ne sait pas très bien de combien de morts il y a eu d'ailleurs, si c'est 1 million de morts, on dit 1 million de morts, mais on ne compte pas forcément les civils, on ne compte pas forcément les gens qui sont morts quelques jours ou quelques mois après la fin de la guerre. Et puis, ce qui suit presque directement ce conflit armé, qui est la grippe espagnole. Donc il y a là une période extrêmement douloureuse qui suit une période qui annonçait, je pense qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas d'artistes, intellectuels, qui pensaient voir arriver une sorte de lumière de civilisation et qui a été cassée, disons, par ce conflit. Mmh. Un conflit déclenché, encore une fois, avec une légèreté de la part des élites de cette époque, enfin des élites politiques, des responsables politiques ou des monarques. Je rappelle que beaucoup de ces monarques étaient plus ou moins cousins, que quelques 2 semaines avant le conflit, l'empereur d'Allemagne a envoyé un télégramme de souhait de bon anniversaire au tsar de Russie, etc. Et puis est arrivée cette guerre, voilà.
Et là, ce qui est particulièrement remarquable, c'est que ces grands événements historiques sont absents, vous le disiez, des textes, des cartes postales, de la même façon que ces cartes postales sont absentes de votre propre texte. Ça joue toujours sur une grande absence.
Alors, elles ne sont pas absentes de mon propre texte, parce que, au fond, le texte de ce livre, c'est vraiment l'histoire de quelqu'un qui découvre ces cartes, qui les lit et dont on suit la pensée et les pensées qui sont provoquées par la lecture de ces cartes.
Ou de leur silence.
Ou de leur silence. Alors, en fait, les silences, on peut savoir aussi qu'il y avait la censure. Donc, il y avait la peur aussi d'être mis en cause si on avait parlé de cette guerre. Alors, il y a quelques phrases quand même. Il y a une petite femme chérie qui se laisse aller dans une lettre à dire quelle misère, quelle guerre abominable, pourquoi des choses pareilles, je ne sais quoi. Mais il y a aussi des choses plus étonnantes. Par exemple, il y a une carte qui est envoyée par un cousin à ce petit homme chéri qui est une image d'une ville qui est Reims, je crois, détruite. C'est-à-dire on a une vue de Reims détruite en 1914. Cette lettre est envoyée, je crois, en 1917. Il y a des éléments comme ça. Ce sont des éléments d'ailleurs ce sont des éléments d'intérêt historique, oui. Néanmoins.
Mais vous ne vous êtes pas contenté de la lecture des textes des cartes postales. Vous avez essayé d'en savoir plus. Vous avez enquêté quelquefois à partir de là. Pour avoir le fin mot de l'histoire.
Oh, le fin mot, non, il n'y en a pas. Je ne crois pas.
C'est difficile à lire, ces textes-là. C'est aussi une des questions posées par le livre. C'est comment lire ça? Comment lire ça et comment comprendre quoi que ce soit à cette histoire enfouie?
Eh bien, si, je crois que on peut. Ce qu'on comprend. Il y a quand même des choses que l'on comprend très bien, c'est que.
Qu'on imagine.
Beaucoup d'actions ont été provoquées par des. Comment dire? Par exemple, il n'était pas question de ne pas aller à cette guerre. Ou alors on était fusillé, ou enfermé en tout cas. Cette guerre était, cet engagement à la guerre était enraciné dans des valeurs qui étaient le patriotisme, la défense de la patrie.
Il y avait des valeurs à l'époque.
Mais ce qu'on dit généralement aujourd'hui dans notre société présente, c'est plutôt qu'il n'y en aurait plus. Là, je découvre sur ce point précis qu'il y en a une au moins, qui est celle plutôt de la voie pacifique, de la voie des négociations, de la voie de l'écoute, plutôt que de la voie de la guerre, même si malheureusement, il y a encore des endroits où ça se passe. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Vous avez essayé de répondre.
C'est déjà pas mal, n'est-ce pas ?
C'est déjà bien. Ouais. Les prénoms que vous avez donnés à ces correspondants.
Oui. Vous voulez savoir s'ils sont
vrais ? Ils ont l'air plutôt romanesques, ils sont trop beaux pour être vrais.
Alors par exemple, lequel est le plus...
Aimé ?
Oui.
Victorine ?
Ben, ils sont peut-être pas forcément dans l'ordre où ils ont été donnés, mais ils sont vrais, oui. Oui, c'est vrai qu'ils sont plutôt romanesques. Ouais. Mais d'ailleurs, je vous dis, c'est un roman.
C'est un roman parce que, pour essayer de déchiffrer ce que vous êtes en train de lire, vous empruntez les lignes de désir, par exemple, qui s'y expriment.
Tout à fait, oui. C'est-à-dire, tout simplement, j'ai inventé des choses qui n'étaient... qui pouvaient s'inventer à partir de ces textes, de ces carpes sales, mais qui n'y étaient pas.
Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire, inventer ?
C'est donner... C'est compléter... Ça peut être compléter la réalité, par exemple, là où elle n'est pas, et où elle est incomplète. Ça veut dire apporter des éléments, par exemple, dont on ne parle jamais. Le narrateur, c'est... donner comme objectif de raconter le retour du petit homme chéri. Mmh. Et il dit, ou je dis, comme vous voudrez, ou comme je veux, finalement, qu'il y avait plusieurs solutions. Enfin, il y en avait beaucoup d'autres, d'ailleurs, mais on aurait pu faire jouer des comédiens ce retour, avec beaucoup d'incertitudes, notamment sur le rôle de l'acteur, même sur son comportement, qui aurait été celui forcément d'aujourd'hui un peu. Alors, j'ai choisi de le raconter d'une façon de l'ordre de la fiction, enfin. Je l'invente, je raconte, je dis comment ça se passe. Je ne développe pas beaucoup, mais tout de même.
Vous êtes comme n'importe quel écrivain face à un mur de silence qu'il faut franchir, quoi, essayer de franchir. Parce que là, bon, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des nouvelles, vous le disiez, sur la santé, surtout, sur le temps qu'il fait, sur les gens qui passent, qui viennent, les visites. Et puis voilà, pas beaucoup d'informations précises, sauf à essayer de lire entre les lignes. Pas grand-chose sur la guerre.
Moi, j'ai appris des choses, cela dit. Hein. Par exemple, à un moment, le petit homme chéri, il envoie une carte postale à sa petite femme chérie et il se trouve cantonné dans un camp, je ne sais pas où, qu'importe, en attendant de rejoindre le front. Et quelle carte il envoie ? Il envoie une carte qui représente un monument aux morts de la guerre 1870. Ça me paraît tout à fait inouï parce que, bien sûr, ce petit homme chéri qui faisait la guerre 14-18, il ne pouvait pas imaginer qu'il y aurait cette autre guerre encore et que la France serait couverte de monuments aux morts, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a un cheminement tout de même. Même si je disais que cette histoire est lointaine, elle a des fondements à notre vie. Elle a
Mais que dit l'iconographie de ces cartes quand elles ne montrent pas un monument aux morts de la guerre précédente ?
Alors voilà, il y a tout un tas de légendes qui accompagnent les cartes postales et qui rendent compte en tout cas, peut-être pas de l'avancée des troupes ou de qui gagnait la guerre, mais qui rendent compte de l'état d'esprit, en tout cas, qui est, ou de la propagande, comme on voudra. Mais il y a des phrases absolument épouvantables, la chanson de la mitraillette, je ne sais quoi, enfin des phrases de propagande. Qui sont, ça c'est d'ailleurs très, très étonnant, parce qu'elles s'étaient envoyées comme ça, sans, à la limite, sans y prêter attention. Et elle rendait bien compte de l'idéologie de cette époque, pourquoi pas, et en même temps d'une certaine bêtise, hein. Il faut bien le dire.
Mais à partir de ça, comment essayer de voir la vérité du terrain?
Alors peut-être elle se trouve vers la fin du livre. Lorsqu'un nouveau narrateur prend en charge l'histoire, et que, donc là, puisque c'est la fin, on n'en parlera pas, vous êtes bien d'accord.
Faut pas parler de la fin?
Bon, on ne dit pas les fins, dit pas les fins, mais ce nouveau narrateur intervient avec, une jeune personne avec qui il va avoir une complicité et qui va d'une certaine façon faire.
Pourquoi il faut toujours qu'il y ait une jeune personne dans une histoire?
Quand je dis une jeune personne, bah écoutez, s'il n'y en avait pas, ce serait un peu dramatique. Hein, mais non, ce que je voulais dire en tout cas, c'est que ça fait. C'est une sorte de réplication ou de rebondissement, enfin pas au sens de suspense forcément, mais parce qu'il y a un nouveau couple, petit homme chéri, petite femme chérie, qui s'instaure à nouveau. Il y a une sorte de continuation comme ça, de génération en génération, peut-être, avec une sorte de soit de dérapage idéologique, soit de construction d'intelligence.
Vous disiez tout à l'heure que c'est votre éditeur qui a mis ce mot « récit » sur la couverture du livre. Le mot « roman » vous aurait convenu aussi. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que ce petit homme chéri est un roman d'amour?
C'est lui aussi qui a mis 14-18, hein, 1914-18, je crois. Ça m'est égal aussi. Oui, sûrement, oui. Oui, sûrement. Sûrement, d'ailleurs, avec... c'est un roman d'amour... soit c'est plusieurs romans d'amour, ouais. Soit c'est un roman avec plusieurs amours. Et avec de la douleur, tout de même. Par exemple, quand le petit homme chéri rentre de la guerre et qu'il est un peu fou comme un fauve. Et que tous ces passages vont extrêmement vont paraître comme une césure, dans la mesure où là, tout l'échange des cartes postales se fait dans une atmosphère de tendresse, d'affection, d'amour, et qu'ensuite les choses ne se passent pas ainsi. Ce qui est curieux d'ailleurs, c'est que il faut bien dire que ces cartes ont existé parce qu'il y a eu la guerre, enfin parce que les gens étaient séparés. Enfin, ce petit homme chéri d'ailleurs, c'était très très peu écrit auparavant, parce qu'il n'en avait pas beaucoup le besoin, sauf au tout début où cet homme envoie des cartes. Pour déclarer sa flamme, comme on disait, avec un seul mot, devine, sans expliquer qui il est, ni ce qu'il dit.
Ensuite, il faut la séparation pour s'écrire.
Ensuite, il faut la séparation pour s'écrire, oui. Et quand il y a les retrouvailles, on ne s'écrit plus de carte postale, évidemment.
Donc vous pensez qu'il vaut mieux ne pas se retrouver?
Oh non, je pense que c'est mieux de se retrouver si on a envie de se retrouver, oui, mais... Là, en l'occurrence, vous savez, tout ça n'est pas du tout de l'ordre de la liberté. C'est ça qui est très extraordinaire aussi, peut-être par rapport à ceux dont je parlais, ces jeunes personnes, et il y a deux jeunes personnes à la fin.
Vous brûlez du désir de nous révéler la fin.
Je vais brûler, mais je resterai imperturbable, si j'ose dire. Mais j'en donne quelques éléments, sûrement. Mais toute cette histoire relève pas du tout de la liberté, mais d'un fatalisme bien obligé. Parce que ce qui est la règle, ce n'est pas la liberté. Ce serait plutôt l'exception. Et cette liberté dans l'exception, elle vient dans les cartes postales, peut-être, oui. Et à travers tous ces mots répétés d'affection, d'amour.
Petit homme chéri, le livre de Jean-Pierre Sauton est publié aux éditions L'Acte Même. Du jour au lendemain, Marie-Thérèse Ferrand, Angélique Thibault, Didier Pinault, Alain Weinstein, bonsoir.
Cette émission a été diffusée la première fois le 13 juin 2007 sur France Culture.